maître consolateur,
esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure.
Donc ici, ma deuxième partie, ce sera le sermon sur la montagne. Alors, ou béatitude encore, que je préfère élargir au sermon sur la montagne. Je fais d'abord une parallèle entre les 10 paroles du mont Sinaï et le sermon sur la montagne, parce qu'au fond, ce sont deux chemins de libération. La première parole du Sinaï, le Seigneur dit « Je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte », avant de commencer à dire « tu », etc. Ce qu'on appelle les commandements. Et au fond, pour le sermon sur la montagne, c'est aussi un cheminement. D'un côté, c'est un cheminement d'Égypte vers la terre promise, pays de miel et de lait, comme il est dit. Et d'un autre côté, c'est un appel à un cheminement vers le royaume. Et donc, ce sont un peu deux cheminements qui sont, pour moi, parallèles, et deux cheminements de libération. Et deux appels vers un ailleurs. Je prendrai pour ce texte est évidemment repris et chez Matthieu et chez Luc, mais je prendrai le texte de Chouraki, qui est plus parlant, je trouve. Mais avant de commencer par le texte, je voudrais simplement faire deux remarques. D'abord qu'il y a 6 antithèses de la part de Jésus. On vous a dit, et moi je vous dis. C'est un peu quelque chose qui est habituel, je dirais, dans le discours rabbinique. Les anciens vous ont dit, Rabbi Intel vous a dit, et moi je vous dis. C'est un peu un jeu de discours qui se retrouve régulièrement. Et même dans les yeshivas, les écoles talmudiques, il y a cet échange, ce dialogue entre deux élèves. Moi, je pense que, toi, tu dis que, et c'est toujours comme ça. Comme il y avait entre Hillel et Shammai. Hillel, qui était du temps de Jésus, un sage du temps de Jésus, qui était quelqu'un de beaucoup plus large dans sa façon d'interpréter, et Shammai, qui était beaucoup plus restrictif et beaucoup plus, un peu étroit d'esprit, très rigide, plus rigide. Donc, il y a 6 antithèses de Jésus et qui correspondent un petit peu aux 6 ordres de la Mishnah, c'est-à-dire qui touchent le meurtre, l'adultère, la répudiation, le serment, la loi du talion, l'amour du prochain. Et les 6 antithèses de Jésus, on parle aussi des... Ça rappelle aussi les 6 jarres de Cana. Les 6 antithèses de Jésus, c'est « on vous a dit, moi je vous dis, on vous a dit, tu n'assassineras pas, moi je vous dis, celui qui se met en colère, qui insulte, etc. « on vous a dit, la 7e et la 10e parole, tu commettras pas d'adultère, moi je vous dis, si, etc. » Je ne veux pas relire tout le texte. Troisième antithèse, il va plus loin dans le « tu n'adultéreras pas », il va plus loin en parlant de répudiation. Quatrième point, le serment. Jésus va plus loin aussi en parlant des deux fils, que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Et puis, la loi du talion. La loi du talion, on parle toujours de la loi du talion, mais la loi du talion, c'est pas œil pour œil et dent pour dent d'une façon catégorique. Ce sont des compensations. Parce que si un borgne, si on lui enlève un œil, si on lui enlève l'autre œil, comme on croit toujours que la loi du talion, ce que veut dire la loi du talion, il devient aveugle. Donc c'est une aggravation de sa souffrance. Et puis, le dernier point, c'est l'amour des ennemis. Alors, dans le serment sur la montagne, Jésus va parler à la fois de la sincérité au service de Dieu, en parlant de la charité, du jeûne et de la prière. Donc, quand tu jeûnes, ne va pas te mettre sur la place publique, etc. Quand tu pries, prie ton Père dans le secret. Et il part de la charité, tend l'autre joue, donne ton vêtement, etc. Puis de la relation entre l'homme et Dieu, amasser des trésors dans le ciel, si ton œil langage de ton corps, si ton œil te porte au scandale, supprime-le. Dieu et l'argent, et puis la confiance en Dieu dans Matthieu 6. Il va parler aussi de l'amour du prochain avec trois conseils. Ne juge pas ton frère. Regarde plutôt la poutre qui est dans ton œil plutôt que la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Ne jetez pas de perles au pourceau et fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Alors je voudrais à ce niveau-là faire une petite remarque au niveau de ce que j'entends régulièrement. Oui, le judaïsme, c'est la loi, et le christianisme, c'est l'amour. Alors, je voulais faire une petite remarque, parce que quand on va donc au cœur de la Torah, c'est-à-dire les cinq livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, au cœur de la Torah, il y a le Lévitique. Au cœur du Lévitique, il y a le chapitre 18, verset 19, « Tu aimeras ton prochain ». Alors, il y a quelqu'un qui a fait, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais il y a quelqu'un qui a fait un compte en disant que le poids du mot « cœur » lève en hébreu, c'est 32. Et que, en comptant, je ne sais pas s'il a compté les phrases, les mots, je ne sais quoi, enfin, en comptant, il est arrivé au cœur de la Torah, c'est-à-dire le Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est toi-même interpellant, parce que finalement, le cœur du Lévitique, c'est un livre de loi, entre guillemets, ou de conseils donnés. Mais dans le Lévitique, d'abord, le Lévitique, c'est le premier livre qu'on fait apprendre aux enfants. Et on enduit les... Pardon ? Aux enfants juifs, évidemment. Et on enlève... On enduit les lettres du miel pour que la parole soit douce à leurs lèvres. Donc, je crois qu'il faut un peu remettre en question cette espèce de préjugé entre le christianisme... En opposant le christianisme au judaïsme. D'autant plus que quand on regarde toutes les lois ou les commandements ou les appels ou les conseils concernant les étrangers, on a beaucoup de leçons à recevoir, surtout actuellement. Parce que les étrangers sont vraiment traités comme des personnes qu'on doit aider, qu'on doit entourer d'amour, etc. Et je crois que ça vaudrait la peine de revoir un petit peu tout le statut de l'étranger. Et quand on a parlé tout à l'heure dans la généalogie de Jésus, de Ruth, Ruth était une étrangère, puisque elle avait arrivé en Israël, et Ruth était une veuve. Donc, dans les deux catégories, qui sont considérés comme devant être sujets de charité. Et Ruth avait le droit, en tant que veuve, d'aller glaner aux abords du champ. Il est dit dans les préceptes juifs, tu ne récolteras pas les abords du champ, les coins de ton champ, laisse ça à ceux qui sont en manque, à ceux qui sont pauvres, à ceux qui n'ont pas de quoi, aux veuves, aux orphelins. Donc là, je me dis qu'on a des choses à revoir. Alors, j'entre dans le texte. Donc, dans le texte de Matthieu Chouraki, il commence en disant sur la montagne, le verset 1. Voyant les foules, il monte sur la montagne et s'assied là, et ses adeptes s'approchent de lui. Alors, sur la montagne, ça me fait penser à toutes les montagnes où le Seigneur s'est exprimé, que ce soit le Sinaï, que ce soit le mont Moria, que ce soit le mont Sion, la montagne du Temple, et aussi la montagne où, lors des tentations, le diable emmenait Jésus pour le mettre à l'épreuve. Seulement ici, d'après la tradition, ce ne serait pas une montagne, mais une petite colline.
Ah oui, tout petit Jésus d'Ali, c'est que j'allais dire, c'est vraiment pas une montagne.
Non, c'est une petite colline. C'est une petite colline, et je crois que c'est significatif que Jésus n'a pas voulu, je dirais, s'adresser du haut d'une montagne à tous ceux qui l'entouraient. Alors, je voudrais aussi parler de la, je dirais, de l'époque où Jésus parle. Parce que dans le chemin de libération qu'il propose, ça me semble important. On est dans un moment de crise. C'est-à-dire que Israël, la terre d'Israël, pour faire gros, la Judée, Palestine, Galilée, est occupée depuis des années par Rome, qui est une puissance évidemment très prégnante, très dure, etc. Et donc l'espoir des Juifs de cette époque, c'est que le Seigneur intervienne à nouveau pour les libérer, comme il a fait en Égypte, pour les libérer de cet esclavage ou de cette autorité dure de Rome. Et donc, c'est dans cette optique-là que Jésus va se situer. Parce que la répression est assez violente par rapport à tout ce qui est acte d'insoumission. Parce que il y a l'autorité de Rome qui pèse, bon, on en parle dans l'Évangile, le dû à César, le tribut dû à César. On voit bien que dans le cheminement de Jésus jusqu'à sa mort, il y a là une opposition entre Rome, avec l'empereur qui est tout puissant, et puis quelqu'un qui est en état ou qui pourrait être en état de rébellion, se proposant comme roi des Juifs. Il y a ce système, je dirais, qui est important à considérer. Avec le fait que, comme Israël, le peuple d'Israël, attend un Messie. Et en même temps, je dirais, on est aussi une époque de crise vis-à-vis du monde romain. Du monde romain qui va tout doucement se déliter. Et donc, mais je ne vais peut-être pas entrer là-dedans d'une façon trop... Bon, on en parlera éventuellement après. Bon, je reprends donc le verset 1. En voyant les foules, Jésus monte sur la montagne, entre guillemets, et s'assoit là. Donc, voyant les foules qui sont en attente de quelque chose. Et il s'assoit là, il ne se met pas debout, il s'assoit là par terre comme les rabbis de son temps, entouré par ses auditeurs, donc à haut niveau des auditeurs. Alors, Jésus se présente un peu, comme dit Luther, comme un super, ou est présenté comme un super Moïse. C'est-à-dire un rabbi annonciateur de la Torah de ses pères et prédicateur apocalyptique, qui appelle un retour du Seigneur, comme certains prophètes l'ont fait, qui réconforterait son peuple et qui lui annoncerait la venue du royaume. Alors, quel royaume? Est-ce le royaume de l'Éternel? Est-ce le royaume d'Israël? C'est un petit peu, l'attente n'est pas très claire, je crois, du côté du peuple d'Israël à ce moment-là. Et Jésus ouvre la bouche. Il ouvre la bouche, ça veut dire qu'au fond, on est toujours dans l'oralité. Jésus n'a rien écrit, c'est après, c'est des apôtres qui ont écrit. On est dans l'oralité. Et dans les prières, dans les psaumes, dans les prières juives notamment, on demande, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche rapportera ta louange. Alors, la première interpellation de Jésus, on dit heureux, mais bon, moi je préfère en marche, les au milieu du souffle, oui, le royaume des cieux est à eux. Dans le psaume 1, c'est en marche qu'il est dit. Et c'est rapporté 43 fois dans la Bible ce mot Asher, Ashriej, Achar, l'homme debout et en marche sur la route qui mène vers le Seigneur. Et donc, dit le commentateur, la béatitude, le mot heureux de la béatitude ne se situe pas au début de la phrase, mais à son terme, qui est le royaume. Donc, c'est vraiment une dynamique de salut que Jésus introduit dans la vie de l'homme en marche vers le royaume. Thomas d'Aquin, dans son traité de la béatitude, disait un peu la même chose, que la béatitude parfaite, c'est de mettre l'homme en marche dans sa quête du bonheur, et c'est ce bonheur qui ne sera atteint qu'au terme de la route. Les humiliés du souffle, qu'on traduit les pauvres en esprit ou les pauvres de cœur, c'est-à-dire ceux qui gardent dans la capacité d'avoir une conscience pacifiée de leur misère, de leur néant, et ce sont eux qui hériteront de la plénitude des grâces divines, le souffle sacré, le Saint-Esprit. Ce sont au fond, si on revient toujours à l'époque de Jésus, les victimes des empires de ce monde, les victimes de toute cette oppression romaine, ceux qui ont été envoyés comme esclaves, ceux qui ont été déportés par Rome, etc. Et ceux-là hériteront du souffle sacré qui fait d'eux les membres de la communion eschatologique annonciateur du monde qui vient. Le monde qui vient, c'est un terme qui revient souvent dans la Bible hébraïque. Parce qu'il ne s'agit pas de déclarer heureux les pauvres, les esclaves, les suppliciés, les torturés, etc. Se déclarer heureux, c'est ceux qui sont en marche à partir de leur misère vers le royaume, mais pas ceux qui sont dans la misère, ça me semblera un petit peu fort. Donc c'est vraiment cette invitation que Jésus lance à partir de la réalité du vécu de chacun, de se mettre en marche vers le royaume, dans une dynamique, dans le fait d'être debout. J'ai Jésus, au fond, si on reprend des passages d'Isaïe, Jésus se désigne comme l'envoyé annoncé par Isaïe, celui qui met en marche ses disciples vers le royaume. Il parle ici du royaume des ciels qui est à eux, avec cette opposition entre l'empire du monde, Rome en l'occurrence, et le royaume d'Adonaï, le verset 4, en marche les endeuillés, qu'ils seront, oui, ils seront réconfortés. On revient toujours, en parlant des endeuillés, à cette dureté de l'occupation romaine qui est reflet et signe de toutes les misères de la terre. Dans Flavius Joseph, qui a écrit La guerre des Juifs, il parle régulièrement des moments d'extermination, de déportation, d'esclavagisme de la part de Rome et d'une détresse d'un monde écrasé par l'armée qui est la plus puissante à ce moment-là. Ils seront réconfortés. Ça renvoie à Isaïe 40 qui interpelle en disant « Réconfortez, réconfortez mon peuple ». Et aussi au discours quand Jésus prendra la parole dans la synagogue, où il reprendra, on lui tendra le livre et il prendra un texte d'Isaïe, qui le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé. Donc c'est à ces victimes-là que Jésus donne ordre de se mettre en marche vers le royaume de l'Éternel. Le verset suivant, en marche les humbles. Oui, ils hériteront de la terre. Les humbles, ce sont les pauvres de l'Éternel. Ceux qui vivent sous le regard de l'Éternel dans un monde en guerre, dans un monde de haine, dans un monde d'idolâtrie, les humbles et les humiliés. Tout au long des évangiles, on voit que Jésus s'adresse ou fait référence aux humbles, aux humiliés. La veuve qui va donner son obole dans le tronc du temple, le paralysé qui attend qu'on le mette dans la piscine de Siloé. L'aveugle, plusieurs fois, les aveugles qui ne voient pas, qui ne peuvent pas, je dirais, participer à la vie sociale. Les boiteux, on en a déjà parlé. La veuve dont il guérit le fils parce que, c'est son seul soutien dans sa vie de tous les jours. Il y a des tas d'épisodes où on voit bien que Jésus est très attentif aux humbles, aux humiliés, aux endeuillés, à ceux qui sont dans la misère. En marche les humbles, oui, ils hériteront de la terre. Alors, pour dire terre, il y a deux mots. Il y a le mot qui est à la base du mot Adam, Adama, qui est le sol, la glaise, la poussière, etc. Et puis il y a le mot Eretz, qui est au fond plus le pays habité, et par extension l'univers. Pourquoi utilise-t-on ce mot Eretz ici? C'est un petit peu un point d'interrogation. C'est un petit peu la réalisation apocalyptique des fins dernières de l'humanité, où la terre sera une terre pacifiée, avec l'agneau qui vivra avec le lion, avec l'enfant qui étendra la main sur le nid de la vipère, etc. C'est cette terre pacifiée, cette terre où l'homme et je dirais la nature auront retrouvé une entente et une vie en paix. Donc c'est ce qui m'a frappé en relisant toutes ces versets, c'est au fond cette espèce de projection que fait Jésus dans l'avenir à partir d'une situation difficile aujourd'hui dans le vécu de tous ceux qui l'entourent, et il les projette comme une ouverture vers un avenir pacifié. Et ça m'interpelle parce que je me dis qu'aujourd'hui, on est un petit peu aussi dans un monde comme ça, sombre, dur, plein de haine, et que quelque part, peut-être, je me dis ça pour moi, prendre cette parole du Seigneur comme une ouverture d'espérance vers l'avenir. Le verset 6, « En marche les affamés et les affoyés, les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. » Ça fait aussi appel à la situation concrète d'une justice qui n'est pas juste dans qui n'est pas, je dirais, équitable dans la situation de Rome où vit Jésus, ou dans la situation concrète où Rome réquisitionne en pays conquis de quoi nourrir ses troupes, comme font toutes les armées de la terre, surtout dans les campagnes de Judée, de Galilée, qui sont considérées comme des pays riches et qui ont de quoi rassasier, je dirais, les armées romaines. Le verset 7, « En marche les matriciels, oui, ils seront matriciés. » Alors, les matriciels, c'est un mot, évidemment, tout à fait, qui vient de Chouraki. Les matriciels, ce sont, donc, ça fait référence, je dirais, aux entrailles divines, aux entrailles qui sont représentées par le mot « rehem » ou les « ra'amin », c'est la matrice, l'utérus. C'est-à-dire que ceux qui assument parmi leurs frères la fonction principale d'Adonai, qui est d'être la matrice de l'univers. Et là, je crois que c'est important aussi, parce qu'au fond, on présente toujours l'Éternel au masculin. Le Père, c'est l'Éternel avec le côté masculin. Et ici, on parle de l'Éternel avec son côté féminin, comme ayant une matrice, comme ayant des entrailles maternelles, des entrailles de miséricorde. La matrice qui reçoit, qui entretient et qui donne la vie. Et donc, c'est présenter l'Éternel comme étant la matrice pour l'univers, celui qui donne vie et qui entretient la vie à la fois pour tout l'univers et aussi pour chacune de ses créatures. Alors, c'est une interpellation à partir du moment où l'homme est créé à l'image de Dieu, et donc l'image matricielle de Dieu, à devenir des hommes, des êtres humains qui sont matriciens, un mot que j'invente, pour leurs frères. Et ceux-là seront matriciés. Seront eux-mêmes sujets à la miséricorde, objet de la miséricorde plutôt, du Seigneur. Et ici, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que Chouraki fait remarquer que les béatitudes ont une structure chiasmatique, c'est-à-dire qu'au centre des différents versets, il y a « En marche les matriciels » et en marche les cœurs purs. Et il fait référence aux astres créés au quatrième jour, des sept jours de la création. C'est-à-dire qu'autour de leur amour, autour de leur lumière, va rayonner les autres ordres donnés de se mettre en marche. autour de ceux qui sont matriciels et autour de ceux qui ont le cœur pur, vont se mettre en marche ceux qui sont persécutés, ceux qui sont affamés, assoiffés de justice et les artisans de paix. Et que ces structures reprennent les sept jours de la création en Genèse. La création de la lumière et du souffle, la création des ciels et des eaux, de la terre et la vie organique, des astres, des poissons, des oiseaux et des animaux et des humains. Et donc, l'importance donnée à ces entrailles de miséricorde et l'importance aussi donnée au cœur pur. En marche les cœurs purs, oui, ils verront Dieu. C'est un ordre central et majeur donné à ces deux, je dirais, ces deux catégories. Comme le soleil est au centre des sept jours de la création pour éclairer le monde, pour rayonner sur le monde, le faire vivre, ainsi les matriciels et les cœurs purs seront source de lumière. Dans certaines traductions, qui n'est pas celle-ci, ils sont interpellés en disant « ils sont ». Matriciers, ils sont au présent, c'est pas ils seront dans le futur, c'est au présent, ce n'est pas dans ces traductions-là, mais dans certaines traductions, et que c'est grâce à eux que survivent les humbles, les endeuillés, les assoiffés, les affamés, les humiliés, les persécutés. C'est grâce à leur proximité, je dirais, avec l'Éternel, ils verront Dieu, ils seront vus par Dieu. Ça dépend un petit peu de la façon dont on voit les choses, et grâce à leurs entrailles de miséricorde, que tous les autres pourront marcher et aller vers ce royaume. Ça rejoint un petit peu, je trouve, le commandement d'amour qui est au centre de la Torah, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ou aime ton prochain comme toi-même. C'est en eux que les faiseurs de paix pourront puiser l'énergie de leur combat pour la paix. Alors, ces huit portraits sont un peu l'organigramme de l'humanité pour Jésus. Le verset 9, il dit « En marche les faiseurs de paix, oui, ils seront criés fils d'Élohim. » Fils d'Élohim, dans le sens où le principal attribut du Seigneur, c'est de faire régner la paix sur la terre comme au ciel, comme il est dit dans le Notre Père, comme il est dit dans le Talmud, comme il est dit dans la liturgie. Alors, fils de Dieu, qu'est-ce qu'être fils de Dieu? Ici, il dit fils d'Élohim, puisque souvent Dieu a deux dénominations, Élohim ou Adonai. Élohim étant plus, je dirais, le Dieu des énergies, c'est celui qui a créé le monde, c'est celui qui a fait jaillir le monde, tandis que Adonai est plus considéré comme le Dieu de miséricorde qui fait clémence, qui a pitié, etc. Qu'est-ce qu'être, se pose ici, je me dis la question, qu'est-ce qu'être fils de Dieu, fils d'Élohim? Étant donné que si on considère que l'Éternel est un faiseur de paix, fils d'Élohim, c'est être des bâtisseurs de paix, comme disent toute une série de textes, je ne vais pas vous citer ici, ce serait trop long. Peut se poser aussi, qu'est-ce qu'être fils de Dieu par rapport au christianisme? être fils de Dieu, être créé à l'image de Dieu. Bon, je laisse la question ouverte, peut-être si on a le temps, après on pourra en reparler. Le verset 10, « En marche les persécutés à cause de la justice, oui, le royaume des cieux est à eux. » On revient toujours avec la même idée, les persécutés, par l'ordre politique injuste où triomphent les instincts, par la domination, l'oppression de l'homme, etc. Ce dont on a déjà parlé. Ici, Jésus, alors qu'il y a tout de même une censure romaine importante pour en revenir à la situation politique du moment, Jésus, au fond, parle à visage découvert. Et Jésus parle, en quelque sorte, plus ou moins sous couvert, d'un conflit qui oppose le royaume des Hébreux, dont le Seigneur est le roi, à l'Empire romain, dont Tibère est Dieu. C'est un mot couvert, c'est un peu dans cette opposition qui se situe et qui pourra peut-être expliquer l'itinéraire qui va suivre après. Dans l'Empire romain, heureusement, la communauté des Hébreux jouit de certains droits, le droit de ne pas être obligé à, je dirais, se joindre au culte des idoles des Romains, d'avoir son propre culte, mais de pouvoir donner une redevance au temple, de rendre une justice au niveau religieux, d'avoir certaines possessions. Donc c'est une certaine autonomie et certaines concessions qui sont données par Rome. Mais par contre, ils doivent prêter serment à l'empereur, considérer l'empereur comme un dieu, faire certains sacrifices pour l'empereur, etc. Donc ici, en étant aussi affirmatif, Jésus tombe sous le coup de la Lex Romana, avec un risque de mort sur une croix, comme sont morts tous ceux qui se sont opposés à Rome. S'ouvre déjà ici tout en, Jésus le dira plus tard, l'annonce de sa passion, mais déjà en étant aussi catégorique, il y a déjà une voie qui s'ouvre pour Jésus vers cette perspective de crucifixion. Alors Jésus va plus loin. En marche, quand il vous outrage, quand il vous persécute, il vous accuse de toutes sortes de crimes à cause de moi. Jésus s'adresse à la fois à son peuple, mais aussi à l'humanité, qui est appelée à se mettre en marche, à s'éveiller, vers de nouveau, vers ce monde qui vient. C'est à la fois une situation historique concrète dans laquelle il se situe, mais aussi, je dirais, dans l'avenir et dans d'autres situations qui vont se vivre tout au long de l'histoire humaine. Cette mise en marge que projette Jésus chaque fois a pour le but le royaume de l'Éternel. Et alors, on arrive au verset 12, « Jubilez, exultez, votre salaire est grand au ciel. » Oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés, ceux qui venaient avant vous. Donc c'est cette référence de nouveau aux prophètes, qui ont été persécutés, comme Jérémie, etc. Donc cette jubilation se situe à la fin de ces béatitudes. C'est de nouveau cette ouverture vers le royaume qui vient. Et puis Jésus va continuer son sermon sur la montagne en parlant notamment du sel de la terre et de la lumière du monde. Vous, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fou, avec quoi le saler? Il n'est plus assez fort pour rien, sinon pour être jeté dehors et piétiné par les hommes. En prenant ce thème du sel, c'est un appel à une transmutation radicale du réel, à une conversion radicale, à un retour de tous ceux qui l'écoutent à la source de l'être qui est l'Éternel. Et Jésus s'en prend à la folie du peuple de Dieu, celle de la terre. Ce sel, plus aujourd'hui évidemment, mais jadis, a toujours été considéré comme un élément fondamental. Et quand on va visiter la saline royale d'Ars-en-Senon, on voit combien c'était important, combien le roi de l'époque avait de redevance sur ce sel produit, et combien c'était important dans la vie tous les jours, parce que c'était une façon de conserver les aliments. Ce sel qui avait, et donc l'image du sel de prend Jésus, ça n'a plus beaucoup d'écho dans notre monde actuel, mais là où il en parle à cette époque-là et toutes les époques qui vont suivre, c'est quelque chose de fondamental d'être sel de la terre, parce que c'est nécessaire à la vie, c'est nécessaire aux aliments. C'est incorruptible et ça conserve de la corruption, conserve la nourriture de la corruption. Et alors, quand on relit notamment les nombres au chapitre 18, on parle d'un pacte du sel, de sel, l'Éternel a fait avec son peuple, une alliance que l'Éternel ne peut rompre et qui s'appelle pacte de ciel, de sel. On parle aussi, quand on parle du sel, des sacrifices et des oblations qui s'accompagnaient de sel. C'est aussi les lois de l'hospitalité, le partage du pain et du sel. C'est aussi dans les repas, le partage du pain et du sel qui entre les convives. Et d'ailleurs, pardon,
là on sale, là.
Oui, au Shabbat, il y a deux pains et avant de partager ces pains, on les sale
copieusement.
C'est un peu trop copieusement parfois. Ici, il dit si le ciel devient fou et non pas si le ciel s'affadit. Si le peuple, je crois qu'il dit, commente en disant, si le peuple devient fou ou n'est plus en alliance avec l'Éternel, qui donc remplira la mission de sauver le monde? En l'an 70, donc au moment de l'oppression de Rome, et notamment au moment, et après au moment de la destruction du temple, il parle aussi un peu de la folie des Hébreux rendus fous par l'oppression de Rome. Le Talmud explique que la destruction d'Israël par Rome a été causée par la haine gratuite qui dressait les différentes sectes juives les unes contre les autres et chacun contre son frère. Ça, c'est une explication du Talmud pour expliquer la destruction du temple.
La destruction d'Israël tout court était la mésentente.
Oui, était la mésentente, oui. que c'est une situation de mésentente et de haine qui contient en puissance la mort d'un peuple. Alors je trouve qu'actuellement, c'est terriblement interpellant parce que je suis frappée, moi, de cette haine qui se développe tant sur les réseaux sociaux, tant dans les discours politiques, etc., qui se développe les uns par rapport aux autres, par rapport aux étrangers notamment, mais les uns par rapport aux autres. Et je me dis que, enfin, ça m'interpelle. Alors, la dernière interpellation de Jésus, vous êtes la lumière de l'univers. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cette lumière, c'est à la fois un symbole et une métaphore. C'est un peu la mise en relation avec les ténèbres de la décadence du monde païen. Et aussi avec l'effondrement du temple qui est tout même, je dirais, central pour le monde juif de l'époque. Et la lumière, c'est une des créations de l'Éternel. On parle de la lumière de l'Aleph, la lumière initiale de l'Aleph, c'est-à-dire la première lettre de l'alphabet qui nous est inconnue et inconnaissable. Et puis, il y a la lumière de la création, la lumière des astres créés par l'Éternel. Mais la lumière, c'est aussi la connaissance et l'illumination, je dirais, qui est apportée à chacun dans l'étude, dans la mendication de la parole, dans la prière, etc. La lumière, au fond, c'est une vibration qui est créatrice. Et la lumière précède les ténèbres ou leur succède, succède aux ténèbres. Il y a cette, je dirais, aller-retour entre ténèbres et lumière. Et cette référence, évidemment, à l'Éternel qui est la lumière du monde. Et les références aussi à Israël, qui est la vocation d'Israël, qui est être lumière pour les nations. Alors, ensuite, il y a les versets, évidemment, qui continuent de 17 à 48, avec... D'abord, les versets de 17 à 20, où Jésus se situe par rapport à la Torah de ses pères, où il va dire « Ne pensez pas que je sois venu détruire la Torah, ni que je sois venu supprimer un seul yot ou un seul signe de la Torah. » Tant que les ciels et la terre ne seront pas passés, pas un yod, c'est-à-dire la plus petite lettre de la Torah, pas un signe de la Torah ne passera que tout n'advienne. On parle des signes, c'est-à-dire que dans certaines écritures des lettres hébraïques, on met des petites couronnes sur les lettres, sur les consonnes. Et donc, avec des petits signes au-dessus de ces lettres et au-dessus de ces couronnes. Et je me dis ici que ça peut faire référence à ces signes. Et puis, dans les versets suivants, de 21 à 48, c'est un enseignement, je dirais, c'est un enseignement propre à Jésus sur les principaux commandements du Décalogue. Comme on a dit, donc tu n'assassineras point, tu n'adultéreras point, pas de vain serment, la loi du talion et aimer l'autre comme soi-même. Alors parfois, au niveau de aimer l'autre comme soi-même, j'ai parlé de l'immigré, du coin des champs, etc. Il y a évidemment énormément de textes qui parlent de l'amour de l'autre. Mais on dit parfois que Jésus est venu ajouter l'amour des ennemis. Seulement dans le Lévitique, on parle aussi de n'aie aucune pensée de haine vis-à-vis de ton frère. Il ne s'agit pas d'acte, mais de pensée. Il ne s'agit pas de parole, mais rien que de pensée. C'est déjà, ça va déjà très loin, penser. Une chose sur laquelle je voudrais revenir aussi, dont Jésus parle, c'est de tendre l'autre joue. Parce que parfois, on se dit tendre l'autre joue, c'est très bien, mais faut pas charrier, quoi. Hein, on fera de son jaune, une autre joue, je vais pas tendre l'autre joue. Alors ici, tendre l'autre joue, je dirais, ça fait référence à la création d'Adam et d'Ève. Ève n'a pas été créée de la côte, mais du côté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle est à côté d'Adam. Et ça fait aussi référence aussi aux chérubins qui sont au-dessus de l'arche d'alliance, où il y a une distance entre les deux chérubins. Et il est dit que dans l'attente de la rencontre, l'Éternel part dans cette distance entre les deux chérubins. Alors moi je me dis, quand donc tend l'autre joue, mets-toi à côté de celui qui t'a frappé, à côté de ton ennemi, à côté de ton adversaire. Et là, tu verras les choses non plus en confrontation, mais du point de vue de l'autre. Et moi je me dis que ça a beaucoup plus de sens que de tendre l'autre joue. Oui, quelque part, on tend l'autre joue parce qu'on se met à côté, mais donc on se met de son côté. Alors, je ne sais pas où on en est au niveau de l'heure.
25.
Et c'est juste là. Ben voilà, c'est juste
plus que 35.
Oui, okay. Oui, bon, sinon je peux m'arrêter ici parce que je ne peux pas, mais je ne sais pas ici qu'est-ce que je peux. Oui, à un niveau du prochain, parce que je trouve que c'est quand même important, Hillel dit la règle d'or: ce que tu détestes pour toi-même, ne le fais pas à ton prochain. Donc Hillel, c'est le sage contemporain à Jésus.
Et à Shammai.
Oui, mais c'est Hillel qui le dit ici. Que l'honneur, la propriété, tout ce qui appartient à ton prochain, te soit aussi cher que si cela t'appartenait à toi. Alors, on parle beaucoup dans les commandements, dans les préceptes, on parle beaucoup de charité. C'est-à-dire venir le plus possible en aide à son prochain nécessiteux. Il y a plusieurs aspects. Le premier aspect qui est l'aumône, qui est un commandement. Et donc la tzedaka, comme on dit en hébreu, qui n'est pas une aumône, mais qui n'est que la justice, qui est un dû, qui est un dû. L'assistance aux pauvres, ce n'est pas un acte de faveur, c'est l'accomplissement d'un devoir. Et en donnant l'aumône, on pratique la justice, car par la charité, on assure une répartition plus équitable dans les dons de l'Éternel à l'humanité. Mais ce n'est pas seulement au mendiant qu'on doit donner, c'est le mendiant lui-même qui subsiste par charité et doit à son tour pratiquer la charité. Alors il y a la dîme et il y a toute une série de dîmes. C'est très réglementé de dîmes qu'on doit donner à l'un, à l'autre, etc. C'est très sérieux. C'est plus sérieux qu'un petit geste de charité.
La dîme rentre dans les obligations, oui. La dîme du ASR, le dixième de ses gains. Du dixième net ou brut ? Question qu'on entend.
Je me suis souvent posé la question.
Net ou brut ?
Net ou brut.
Les 10%, est-ce qu'il faut les calculer net ou brut ? Nos amis protestants disent en général c'est sur le brut qu'il faut le compter.
Ah ouais, ben alors.
Ben, si tu as beaucoup de biens, je suis désolé, ta dîme est plus forte, même si elle ne te rapporte pas comme telle, et que tu as des taxes dessus, etc., on estime que. Et c'est une vision encore très pratiquée dans le monde protestant. Et il ne faut pas être de droite pour ça.
Alors, bon, il y a aussi l'accomplissement, ce qu'ils appellent d'action aimante, par un service personnel, entre les vivants et les morts. Quelque chose de très important, c'est, je dirais, l'accompagnement des endeuillés et l'ensevelissement des morts. Il y a toute une série de règles ou de préceptes concernant l'accomplissement de ce devoir vis-à-vis des morts. Et par exemple, quand on lit dans la Genèse, dans Deutéronome, il est mis au début, l'Éternel a revêtu Adam de tunique de peau, et à la fin, il est mis, il l'enterra dans la vallée. J'ai les références ici. Alors, il y a aussi énormément de préceptes qui concernent les actions faites par bonté vis-à-vis des voyageurs, vis-à-vis des malades, vis-à-vis des étrangers. Et je crois qu'en parlant, par exemple, concernant le Samaritain, c'est quelque chose à ce niveau-là que Jésus a voulu souligner. Cette action de charité vis-à-vis du voyageur, vis-à-vis du blessé, vis-à-vis du malade, qui va très loin. Et finalement, cette interpellation que c'est l'étranger, le Samaritain, celui qui n'était pas faisant partie, entre guillemets, du peuple d'Israël, qui est le plus généreux et le plus proche du blessé. Alors que dans les autres qui passent, évidemment, et là on revient aussi sur certaines paroles de Jésus, on ne le dit pas clairement, mais enfin, ils font état de leur statut où ils ne peuvent pas approcher le sang parce qu'ils seront alors impurs. Le lévite, le prêtre, le lévite, en principe, n'approche ni les morts ni le sang parce que sinon ils seront attachés d'impureté pour leur service au temple. Et donc là aussi, quand Jésus parle de le bon samaritain, comme on intitule en général le bon samaritain, il fait allusion à ces règles de pureté et impureté, ou permis et interdit, qui sont un obstacle, si on veut les respecter à fond, au service du prochain.
Un petit exemple pratique, si vous assistez à des funérailles juives, en partant, on vous propose de vous asperger avec un petit bouquet d'herbe, d'un peu d'eau. C'est la purification en sortant du cimetière. Et ce sont des choses qui ont l'air d'être des détails, mais qui est un respect pour la terre et la séparation entre le mort et le vivant.
Parce que le mort n'entre, par exemple, il n'y a pas de service à la synagogue. Tout le mort part de la maison où il est mort, ou la clinique, ou je ne sais pas, et part directement au cimetière sans passer par la synagogue, parce qu'on peut mélanger la vie et la mort. C'est très important de faire une rupture entre les deux. D'ailleurs, il y a un texte qui était très clair, « Je mets devant toi la vie et la mort, bénédiction, la malédiction, choisis la vie, parce que moi je suis le vivant et celui qui apporte la vie. Oui, pour faire écho à toutes ces règles de pureté, dans le Talmud, on dit que la bienveillance et l'amour du prochain valent à eux seuls autant que l'application de tous les autres commandements de la Torah. Donc, quand Jésus demande d'aimer notre frère, il ne fait qu'appliquer un principe majeur et un message majeur du Sinaï, reporté dans la Torah, écrite et orale. Alors, le frère, c'est pas seulement le frère, je dirais, juif. C'est le frère dans le sens étendu du terme. Je suis frère parce que je suis de la même chair, parce que je suis de la même condition humaine. Et je crois que ça doit nous interpeller aussi, actuellement aussi, parce qu'on a cette espèce de repli sur les mêmes, ou ceux qui pensent la même chose, ou qui vivent la même chose. Et donc, ce frère, c'est le frère humain. Pour le terme, je parlais des étrangers. Il y a plusieurs termes pour le mot étranger. Il y a celui qui est étranger parce qu'il n'est pas de la même religion que le païen. Il y a celui aussi qui est d'ailleurs ou qui est ailleurs, qui est un étranger parce qu'il est ailleurs, il a d'autres dieux. Et puis il y a celui qui est, qu'on appelle aujourd'hui l'immigré, qui vient d'ailleurs, mais pour séjourner chez nous. Et donc qui devrait avoir ou qui doit avoir les mêmes droits civiques. Cette notion d'étranger vient tout le temps dans la Torah. Et je crois que, et notamment quand on revoit ici, enfin je parlais de la généalogie de Jésus, où il y a finalement dans ses ancêtres des étrangers ou des étrangères.
Et parce que l'araméen, j'étais un étranger.
Oui, ça aussi, oui. Donc, oui, au moment de la fête de Pâques, une des phrases qui revient à chaque fête de Pâques, j'étais un étranger, j'étais un... Mon père était araméen, étranger.
Et qui dit ça?
Au moment de la fête de Pâques, ça fait partie des textes.
Dans la Haggadah de Pâques, dans le récit.
Celui qui dit cette phrase-là, c'est qui?
C'est le juif qui célèbre la Pâques.
Ah, le célébrant.
Oui, enfin,
en le chef de famille. Il ne fait pas une célébration.
Ah oui, dans chaque famille.
Oui, chaque famille, la fête de Pâques juive, c'est une fête familiale qui se célèbre dans les familles. Alors, il y a les juifs pratiquants, et puis il y a les juifs laïcs. Mais ça se célèbre aussi dans les familles des juifs laïcs, c'est-à-dire non religieux. Et nous avons assisté déjà à des fêtes de Pâques chez un juif tout à fait pratiquant, et chez une juive tout à fait laïque. Mais on célèbre en raccourci, mais on célèbre et on reprend tout le texte de la sortie d'Égypte, on reprend des textes des psaumes, on a le repas pascal avec le même plat pascal, avec la même symbolique. C'est très étonnant parce que c'était des juifs tout à fait laïcs, non religieux, qui ne pratiquent absolument pas, mais on a retrouvé en plus court la même célébration du repas de Pâques. C'est très, très étonnant. C'est comme il y a des juifs laïcs qui font circoncire leurs enfants. Il y a des juifs laïcs qui célèbrent la bar mitzvah. C'est-à-dire, la bar mitzvah, c'est le passage à l'état adulte à 13 ans. Et donc, où le garçon peut monter à la Torah et lire un passage de la Torah. Mais ça se fait aussi dans les familles. Ah, pardon. Oui, tu dois le dire. Merci, je m'arrête.